France Culture, il est 12h31. Tout de suite, c'est le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Il ne s'était pas parlé depuis des mois en pleine dégringolade des relations bilatérales et pourtant négociateurs chinois et américains sont finalement tombés d'accord aujourd'hui pour mettre en œuvre leur accord commercial.
L'Algérie a fixé au 1er novembre la date du référendum sur une nouvelle constitution visant à renforcer la démocratie.
Oui, pas de quoi rassurer visiblement le mouvement de protestation qui réclame un profond changement de système politique. Nous irons également en Russie où le Kremlin ne comprend décidément pas l'empressement de l'Allemagne à conclure à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny.
Et dans votre journal également l'Allemagne, sur le qui-vive face à une menace croissante de deuxième vague.
Oui, au point que depuis hier, tout en mettant en garde contre les voyages non indispensables, Berlin a décidé de placer les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur en zone à risque. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès du ministre de la Travail, de l'Emploi, de l'Insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Puis à 12h55, Olivia sera à la grande table des idées.
Nos pensées seront-elles bientôt jugées dans la rentrée littéraire? Une fiction, une dystopie, celle de l'écrivain Ilan Duran-Cohen. Ça s'appelle Le Petit Polémiste, ça paraît chez Actes Sud. Et il est notre invité dans la grande table des idées aujourd'hui.
Merci et à tout à l'heure. Et pour commencer ce journal, nous avons tout d'abord choisi de vous proposer d'écouter un témoignage, celui d'un homme paralysé par une maladie rare et douloureuse et surtout incurable. Alain Coq, aujourd'hui âgé de 57 ans, est en phase finale depuis près de 34 ans et cet après-midi, eh bien, il a décidé de s'en remettre au président de la République en personne, Emmanuel Macron, pour l'aider à partir en paix, comprenez, à mourir dans la dignité. Dans quelques heures à peine, il s'entretiendra avec la conseillère à la santé de l'Élysée, faute de quoi il a d'ores et déjà prévenu qu'il arrêterait son traitement et mettrait fin à ses jours le 4 septembre prochain. Wafia Kenij, bonjour. Vous avez joint hier par téléphone donc Alain Coq dans son lit médicalisé qu'il ne quitte plus. Il a accepté de vous expliquer son difficile cheminement. Je vous propose que nous l'écoutions avant de repréciser avec vous ce droit donc à une fin de vie auquel il demande à pouvoir bénéficier avec une assistance active du corps médical.
Moi, les soins palliatifs, je n'en veux plus. Au cours de ces 4 dernières années, ça a été 8 interventions chirurgicales. Si c'est que sur les 7 mètres d'intestin grêle, aujourd'hui j'en ai quasiment plus. Et je m'habite dans une poche. À l'heure actuelle, je suis coincé à regarder mon plafond. C'est ma réalité de tous les jours. La loi Leonetti permet une sédation profonde à partir du moment où le patient arrête son traitement. Mais pour cela, il faut qu'il soit en phase ultime. Moi, je peux me traîner 2 ans, 5 ans, 10 ans. À l'heure actuelle, on me maintient artificiellement. Si je reste seul dans mon lit, je meurs. On m'a mis une sonde nasogastrique pour m'alimenter. Il y a quelques temps, j'ai réalisé une chose, c'est qu'on est en train de me gaver comme une oie. Je suis en train de perdre progressivement la vue. Je suis devenu sourd, je suis appareillé. On est obligé de m'arracher toutes les dents. Les poumons sont touchés. J'en passe et des meilleurs. Pendant 35 ans, j'ai décidé de vivre et de me battre pour la vie. Je demande à partir par rapport à tout ce que j'ai déjà subi. Et malheureusement, ce qui m'attend, ce sera rien. Au moment ultime de sa vie, quand on décide, je demande à ce que chaque citoyen ait le droit de choisir sa mort. Mon choix est fait. Le 4, j'entamerai le processus de fin de vie, de ma fin de vie.
Moi, Wafia Kenij, je reviens vers vous. Précisons qu'Alain Coq ne demande pas le suicide assisté ni l'euthanasie, mais un soin ultime, en somme, pour éviter donc des souffrances inhumaines. Peut-être, Wafia, faut-il repréciser le cadre législatif de ce cas très singulier.
Le récit d'Alain Coq met au jour la complexité de ces situations. Il n'est pas en fin de vie, donc dans le cadre de la loi Leonetti, il ne peut pas, en théorie, bénéficier de la sédation. Pourtant, il ne peut ni marcher, ni s'asseoir, ni manger. Il ne voit et n'entend presque plus. Son corps va continuer à se dégrader de jour en jour. Mais à l'heure actuelle, une personne dans cet état ne peut pas demander à mourir. Seules les personnes agonisantes peuvent, entre guillemets, bénéficier de l'arrêt de traitement. Cela concerne environ 100 000 personnes par an. Alors arrêter le traitement, ça veut dire concrètement qu'une équipe médicale, le patient s'il le peut et sa famille prennent cette décision collégialement. Mais dans les faits, c'est bel et bien le médecin qui tranche. Selon Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, la sédation, ça peut être une solution dans le cas où le patient est sur le point de mourir dans les 24, dans les 48 heures. Malheureusement, le malade peut rester en vie pendant des jours, voire des semaines, malgré l'arrêt des traitements. Du côté des soignants, comme des associatifs, on évoque aussi le manque de postes en soins palliatifs et, dans les autres services médicaux, le déficit de formation de certains médecins sur la fin de vie. Il y a aussi les limites des soins palliatifs. Certaines douleurs ne peuvent pas être soulagées. Toujours dans le cadre de la législation sur la fin de vie, on doit en théorie proscrire l'acharnement thérapeutique. Pourtant, notamment dans certains EHPAD, des cas sont toujours signalés. Enfin, depuis 2016, la loi autorise chaque citoyen à rédiger des directives anticipées sur sa fin de vie. Un document qui compte, même si c'est l'équipe médicale qui finit par décider.
Merci Wafia Kenish. Il s'imaginait héros du peuple serbe, mais son nom restera jamais associé aux crimes de la guerre de Bosnie, plus particulièrement au massacre de Srebrenica, la pire tuerie sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui s'ouvre à la haie le procès en appel du boucher des Balkans, Ratko Mladic, condamné en première instance en 2017 à la réclusion à perpétuité. Alors que le mouvement inédit de protestation contre le président Loukachenko est entré hier dans sa troisième semaine, les autorités biélorusses multiplient les arrestations d'opposants et de dirigeants grévistes, en même temps que les déclarations et autres mises en scène martiales. Dernier symbole de cette pression qui s'accroît de jour en jour sur les manifestants, la lauréate du prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, sera convoquée demain par les enquêteurs. Les redoutables agents innervants pourraient-ils être la cause de la subite dégradation de l'état de santé d'Alexei Navalny? C'est du moins ce qui semble ressortir des résultats d'analyse rendus publics hier par l'hôpital berlinois, où a été admis l'opposant du Kremlin, toujours plongé dans un coma artificiel. Une affaire qui tourne désormais au contentieux diplomatique entre Berlin et Moscou, l'Allemagne exhortant la Russie à juger les auteurs de cet empoisonnement. Une requête, Claude Brouillot, qui au regard des dernières affaires d'empoisonnement qui ces 15 dernières années auront toutes défrayé la chronique internationale, a peu de chances d'aboutir.
Malgré les demandes réitérées de l'entourage d'Alexei Navalny, le comité d'enquête russe, organisme fédéral d'investigation qui est directement rattaché au Kremlin, n'a donc toujours pas été sollicité à ce jour pour travailler sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Rien d'étonnant finalement à cela, puisque dans les précédents cas d'empoisonnement d'opposants politiques ou de journalistes critiques du pouvoir en Russie, aucune enquête n'a jamais été diligentée. Du journaliste Yuri Tchekachikin, rédacteur en chef adjoint à Novaya Gazeta, mort empoisonné en 2003, à l'activiste protestataire des Pussy Riot, Piotr Verzilov, secouru in extremis par les Allemands déjà en 2018, en passant par l'opposant politique Vladimir Karamurza, empoisonné deux fois en 2015 et en 2017 et aujourd'hui réfugié aux États-Unis, pas la moindre investigation. Dans le cas d'Alexei Navalny, le délai limite pour la saisine du comité d'enquête fédéral est dépassé depuis hier 13h30 et malgré les pressions exercées par l'Allemagne et l'Union européenne, on ne voit pas ce qui pourrait inverser cette tendance. Dès le départ, le Kremlin, en effet, avait décidé de se retrancher derrière l'avis des médecins russes à Omsk, qui hier encore ont affirmé n'avoir détecté aucun agent toxique dans l'organisme d'Alexei Navalny. Et Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a dit tout à l'heure ne pas comprendre, je cite, « l'empressement allemand à conclure un empoisonnement ». Fin de citation.
Toujours au chapitre de la chronique, cet espion qui venait du froid, l'Autriche a confirmé hier l'expulsion en cours d'un diplomate russe accusé d'espionnage industriel. Moscou a aussitôt réagi en déclarant persona non grata à un diplomate de l'ambassade autrichienne en Russie. Aux États-Unis, et sans surprise, le président Donald Trump a été officiellement investi hier au premier jour de la convention nationale du Parti républicain comme candidat à sa réélection. La soirée d'ouverture de ce grand show aura notamment mis en avant ce qui devrait être un thème récurrent jusqu'à sa clôture jeudi soir, la mort du rêve américain si les démocrates venaient à l'emporter. Tour à tour, le président sortant et ses pairs ont dressé un portrait en tout point apocalyptique d'une Amérique dirigée par Joe Biden. Et puis, l'actuel locataire de la Maison Blanche à la traîne dans les sondages n'a eu de cesse par ailleurs de répéter sans preuve que le vote par courrier, une pratique de longue date aux États-Unis qui devrait être plus répandue encore du fait de la crise sanitaire, pourrait entraîner une fraude électorale. Et que dire à présent de l'application vidéo chinoise TikTok, en partie responsable des surestimations de l'affluence attendue lors du meeting de campagne de Donald Trump à Tulsa l'été dernier, qui, on s'en souvient, n'avait pas mobilisé les foules, un véritable fiasco. Cette application de partage aux milliards d'abonnés à travers le monde est depuis dans le viseur du président américain. C'est ainsi qu'au début du mois, invoquant une question de sécurité nationale, Donald Trump avait par décret interdit à la plateforme toute transaction avec des partenaires américains sous 45 jours, bannissant de fait TikTok des États-Unis. Sauf qu'hier, Benjamin Hilly, le gros propriétaire de l'application a décidé de déposer une plainte contre l'administration américaine.
Derrière ces vidéos à l'humour potache,
oh my God,
parfois dansante, parfois plus ou moins musicale, et derrière TikTok, il y a Pékin, veut croire Donald Trump. Son administration accuse l'application d'espionnage. Sans preuve tangible, le président américain reproche à la plateforme de siphonner les données des utilisateurs au profit de la Chine. Réponse de TikTok, dans un communiqué, nous sommes totalement en désaccord. TikTok n'est pas une menace pour la sécurité nationale. La société rappelle que les données sont stockées hors de Chine sur des serveurs aux États-Unis et à Singapour. Un bannissement, une manœuvre fortement politisée, dénonce TikTok. Et cela à un peu plus de 2 mois de la présidentielle américaine, alors que Donald Trump semble faire du message anti-Chine un argument de campagne. Le réseau social se retrouve maintenant mêlé aux tensions croissantes entre Pékin et Washington. Tensions commerciales, bien sûr, diplomatiques aussi, avec ce profond désaccord sur Hong Kong lié à la répression des manifestations pro-démocratie, sans oublier la crise sanitaire et les références du président américain à ce qu'il appelle le virus chinois.
Alors effectivement, au cœur de cette guerre diplomatique entre Pékin et Washington, c'est vrai que les motifs d'affrontement n'auront pas manqué depuis plusieurs mois, la crise du coronavirus effectivement, mais aussi les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, pour ne citer qu'une véritable dégringolade donc des relations bilatérales, au point que les deux géants ne s'étaient pas parlé depuis des mois. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et c'est pourtant dans ce contexte, Bertrand, donc, que négociateurs chinois et américains sont finalement tombés d'accord ce matin pour mettre en œuvre l'ultime terrain d'entente, a priori donc entre les deux puissances, à savoir leur accord commercial.
Oui, pour l'instant, ce sont des déclarations d'intention résumées dans des formules au style ampoulé, tout en louvoiement et circonlocution. Ainsi, dans le communiqué chinois, on peut lire, je cite, « Les deux parties sont tombées d'accord pour créer les conditions et l'atmosphère permettant de continuer à faire progresser la mise en œuvre de la première phase de l'accord économique et commercial sino-américain ». En résumé, Pékin et Washington vont continuer à discuter. Ce qui est déjà quelque chose, compte tenu en effet des relations tendues entre les deux grandes puissances. L'accord signé le 15 janvier dernier entre les États-Unis et la Chine est relancé. Les Chinois s'étaient engagés à acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires de produits et services américains. En échange, Washington renonçait à toute nouvelle hausse de droits de douane sur les importations venues de Chine. Mais fin juin, Pékin avait tenu moins de la moitié de ses engagements d'achat de produits américains, tandis que l'excédent commercial de la Chine envers les États-Unis continuait d'augmenter. Les discussions qui viennent d'intervenir ont pour objectif de remettre l'accord sur les rails en incitant Pékin à acheter davantage aux États-Unis, un enjeu essentiel pour Donald Trump en pleine campagne électorale. Cet accord commercial était une promesse faite aux agriculteurs américains pénalisés par la réduction des commandes chinoises, notamment le soja. Le représentant américain au commerce qui mène les discussions, aurait aussi obtenu une plus grande protection des droits de propriété intellectuelle et l'élimination des transferts forcés de technologies.
Merci Bertrand Galichet. Le Premier ministre tunisien désigné, Hichem Mechichi, a annoncé tard hier soir la composition de son futur gouvernement, composé pour l'essentiel de technocrates sans étiquette politique, une manière de prendre ses distances avec les querelles partisanes qui agitent le Parlement, sauf que nombre de partis se sont dit mécontents d'avoir ainsi été écartés du cabinet. Or, le sort du gouvernement sera décidé lors d'une session exceptionnelle du Parlement, justement dans les prochains jours. En Algérie, après plusieurs mois de manifestations appelant à des réformes, les autorités ont fixé au 1er novembre le référendum sur la révision de la Constitution destinée à renforcer la démocratie et confier au Parlement un rôle plus important. C'est du moins là l'objectif prétendument affiché, car dans les faits, Valérie Crovard, rien ne dit que cette révision répondra aux revendications du mouvement de protestation qui réclame, lui, un profond changement de système politique.
Des mesures de replâtrage pour les uns, un référendum du fait accompli pour les autres. Le texte qui sera soumis au vote des Algériens le 1er novembre, jour anniversaire du début de la guerre d'indépendance de l'Algérie, est dénoncé par le Pacte pour l'Alternative démocratique qui regroupe les partis liés au Irak. Le mouvement de contestation, né en février 2019, demandait que les prérogatives du président de la République soient réduites. Or, dans le projet de réforme constitutionnelle, rendu public début mais le chef de l'État conserve tous ses pouvoirs. Il pourra opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement, nommer les généraux, dissoudre l'Assemblée populaire nationale et légiférer par ordonnance. Il conservera également la possibilité de choisir le président de la Cour suprême, ce qui lui confère un pouvoir supra-présidentiel, commentent les magistrats qui n'ont eu de cesse de réclamer une séparation des pouvoirs, mise à mal dans la précédente constitution héritée de l'ère Bouteflika. Le texte prévoit également la création d'un poste de vice-président qui ne sera pas élu pour pallier le vide constitutionnel au cas où le chef de l'État ne pourrait pas terminer son mandat. En outre, ce dernier ne pourra pas être poursuivi pour crime de corruption. Or, la lutte contre la corruption était censée être garantie dans la nouvelle constitution. Elle est pire que la précédente, souligne un proche du Irak. On est loin de l'Algérie nouvelle qu'appelait de ses voeux Abdelmadjid Tebboune après son élection en décembre dernier, conclut-il.
Avec un bilan global d'au moins 810 000 décès, le nouveau coronavirus poursuit ses ravages sur tous les continents et c'est le cas en particulier en Allemagne, pourtant considéré comme un modèle dans sa gestion de la pandémie en Europe. Depuis quelques jours, le pays connaît en effet une résurgence des nouvelles infections, en partie liées au retour des vacanciers. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Berlin. Les autorités sont donc aujourd'hui plus que jamais sur le qui-vive face à une menace croissante de deuxième vague. Et c'est dans ce contexte, Ludovic, que l'Allemagne a donc placé hier les régions Île-de-France et PACA en zone à risque en raison du nombre élevé de cas d'infection au nouveau coronavirus.
Et si cette information résonne de façon particulière en France, il faut comprendre que ce message vise surtout ici les Allemands. Il leur est dit d'éviter de faire du tourisme dans des zones où l'épidémie montre des signes de reprise. Après la Guyane, vendredi dernier, les deux régions les plus touristiques de France s'ajoutent donc à cette liste des zones à risque. C'est automatique dès qu'il y a plus de 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des 7 derniers jours. L'Allemagne a mis en place tout l'été une campagne de tests gratuits à l'arrivée des voyageurs. Sauf qu'avec cette politique, la capacité de test atteint ses limites, d'où ce changement qui devrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Retour à ce qui se faisait avant l'été, si vous n'êtes pas en mesure de présenter un test négatif très récent, c'est la quarantaine obligatoire. Le test se fera de nouveau à l'hôpital ou dans le privé, minimum 5 jours après votre arrivée, ce qui en attendant le résultat vous oblige à environ une semaine de quarantaine. L'effet se veut dissuasif et l'amitié franco-allemande va devoir se vivre avec un peu de distance ou quelques contraintes.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Toujours en réaction à la résurgence de l'épidémie dans l'Hexagone, on se souvient que les autorités britanniques ont imposé depuis le 15 août une quatorzaine aux voyageurs arrivant de France. Et bien hier, Paris a décidé de mettre en place des mesures de réciprocité dans les prochains jours. La lutte contre l'épidémie de Covid-19, c'est encore l'objet du Conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Elysée. Puis la crise sanitaire, nous allons également l'évoquer avec notre invité aujourd'hui, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion, chargé des retraites, mais aussi de la santé au travail. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger depuis le ministère du Travail, donc Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Une première question, monsieur Pietraszewski. Le plan de relance du gouvernement qui devait être dévoilé aujourd'hui même a été reporté au nom de l'impératif sanitaire. Votre confrère Bruno Le Maire parle même de resserrer les boulons. Est-ce que pour autant les entreprises sont prêtes, selon vous, ne serait-ce que psychologiquement, à affronter ce délai supplémentaire ?
Bien, écoutez, j'ai passé du temps avec les représentants des organisations patronales, beaucoup de temps au téléphone encore hier et tard dans la soirée. Ils sont complètement mobilisés sur la nécessité d'assurer la sécurité et la santé de leurs collaborateurs au travail. Et vous savez, les employeurs jouent le jeu sur cette dimension de protection des salariés pendant la crise sanitaire. Ils sont aussi très conscients qu'il nous faut préparer la rentrée de tout le monde, y compris d'ailleurs dans les administrations, pas que dans la sphère privée ou dans les associations. associations et dans les commerces. Et tout cela nécessite un petit peu de temps. Ils savent que le plan de relance du gouvernement est prêt et que les 100 milliards qui sont là pour aider les entreprises à passer cette crise seront bien répartis à partir de la semaine prochaine.
Question de Catherine Pétillon.
Le protocole sanitaire nouvelle version dans les entreprises entre en vigueur là au 1er septembre avec notamment le masque obligatoire en lieu clos. Il y aura, dites-vous, des adaptations ou des dérogations mais pas d'exceptions. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette subtilité sémantique? Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer?
Bon, d'abord revenons sur ce que vivent tous les Français. Pourquoi on a pris cette décision de faire évoluer le protocole? Bien, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent nous inviter à la prudence. Ça a été évoqué dans le journal juste avant mon intervention. Ces indicateurs doivent nous inviter tous à porter le masque à chaque fois que c'est nécessaire, notamment lorsqu'il y a beaucoup de monde dans les endroits qu'on dit bondés. Et cette nécessité, elle aussi présente dans l'univers de l'entreprise, notamment dans les lieux clos où on peut se trouver à plusieurs.
Mais alors vous dites qu'il y aura des adaptations ou des dérogations à ces règles, lesquelles ?
Alors, les adaptations à la règle commune. Cette règle commune, elle est simple. Nous portons le masque dans les zones de travail partagées. Voilà. Et donc en réunion, dans les open space. Les partenaires sociaux, vous savez, nous travaillons avec eux depuis le mois de mars sur la gestion de cette crise sanitaire. Depuis le mois de mars, nous travaillons avec Muriel Pénicaud en son temps, avec Elisabeth Borne maintenant, pour leur permettre aussi d'être acteurs de cette protection des salariés. Du côté patronal comme du côté salarial, ils nous ont fait un certain nombre de remarques et c'est ces remarques que nous avons soumises au Conseil de la Santé publique.
Alors concrètement, est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces propositions et qu'est-ce qui pourrait définir ces exceptions? Quels secteurs pourraient être concernés?
Eh bien, un certain nombre d'acteurs représentant notamment des employeurs mais aussi des salariés nous ont dit mais il y a dans certains cas des mesures qui existent, notamment des mesures de distanciation physique. Dans d'autres cas, il y a des mesures de cloisons mobiles qui ont été posées. La question a été posée aussi de l'aération, du renouvellement de l'air. Vous savez que c'est très important, le renouvellement de l'air, c'est très différent si vous avez de l'air qui est pris de l'extérieur et qui est renouvelé dans votre espace, alors que si vous avez de l'air qui est simplement de l'espace, qui est simplement recyclé en permanence, c'est très différent. Donc toutes ces questions-là, elles ont été bien sûr abordées, elles ont été transmises au Conseil de la Santé publique. L'objectif reste toujours le même. Nous avons une règle commune pour nous tous, pour nous mettre en sécurité les uns et les autres. Et il faut aussi tenir compte des réalités, et ces réalités dans un contexte sanitaire.
Qui décide aujourd'hui des règles à suivre, Laurent Pietraszewski? Vous avez des discussions avec les partenaires sociaux, mais vos accords et compromis sont soumis au Conseil de Santé publique. Est-ce que le pouvoir de décision est désormais entre leurs mains?
Mais le Haut Conseil de la Santé publique fait des recommandations. D'ailleurs, vous avez bien compris, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et nous travaillons avec ces recommandations depuis le début de la crise sanitaire. Et ce sont ces recommandations, d'ailleurs, qui ont permis de faire plus de 90 guides spécifiques métiers en plein cœur du confinement pour permettre le déconfinement, pour arriver maintenant à un protocole général qui doit pouvoir s'adapter, être mise en musique, mise en œuvre dans les entreprises. Et c'est là que les partenaires sociaux ont aussi un rôle à jouer, localement. Moi, vous savez, je crois beaucoup au fait que dans les entreprises, les conseils socio-économiques puissent s'approprier ce nouveau protocole.
Sur la question des masques, vous préconisez le masque en tissu. Alors, on comprend qu'il y a des stocks à écouler, qu'il y a aussi les masques fabriqués en France à favoriser. Mais déjà, certains employeurs s'inquiètent des risques éventuels qu'ils pourraient avoir si les masques sont mal nettoyé, mal utilisé par leurs employés. Le masque en tissu reste la préconisation néanmoins?
C'est la recommandation du Haut Conseil de la Santé publique. Il parle effectivement de masque grand public. Ce masque grand public, vous savez, c'est celui qu'on peut réutiliser plusieurs fois, c'est celui qu'on lave à la maison, c'est celui qui, sur le fond, est dans notre quotidien, c'est celui qu'on met aussi quand on va faire les courses, c'est celui qu'on met quand on prend les transports en commun. Eh bien, ce masque grand public, c'est celui qui est recommandé. Si les choses devaient évoluer, nous feront aussi évoluer le protocole. Mais je crois que je fais confiance à la responsabilité des Français. Ils ont des masques grand public en tissu, ils savent qu'ils doivent les nettoyer et ils les remettent quand ils sont propres.
Dernière question, le virus circule dans un certain nombre de régions, notamment dans les grandes métropoles. Le télétravail a été la règle jusqu'à présent. Faut-il l'encourager davantage? Est-ce qu'il faut négocier un accord comme le réclament les syndicats?
En quelques mots, s'il vous plaît.
C'est vrai qu'on sent que les partenaires sociaux veulent débattre de ce sujet. C'est d'ailleurs à l'agenda social. On les invite bien sûr à avancer dans ce débat et nous les accompagnerons à chaque fois que c'est nécessaire.
Merci Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion, d'avoir répondu à notre invitation en duplex depuis le ministère. Merci également à Catherine Pétillon ainsi qu'à Georges Thau pour les moyens techniques. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps de cet après-midi sera perturbé de la Bretagne vers le Poitou-Charentes, le centre, l'Île-de-France et les Ardennes. Généralement bien ensoleillé partout ailleurs. Les températures les afficheront entre 20 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.